Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation Gagner en bourse simplement. Nous sommes dans le module La méthode pour gagner simplement. Et maintenant, nous allons voir le premier élément indispensable pour appliquer la méthode correctement. C'est de savoir comment déterminer la solidité des marchés financiers actuels avant d'acheter une action en bourse. Alors pourquoi il est important de connaître la solidité des marchés financiers et la tendance des marchés financiers, vous allez me dire, pour plusieurs raisons en fait, dont la principale de ces raisons est de ne pas vous retrouver à agir contre la tendance générale du marché en question. Les actions sont loin d'exister dans un microcosme, dans une bulle indépendante du reste du monde. Les entreprises qui sont derrière ces actions vivent au sein d'un écosystème, d'un ensemble de zones géographiques, d'un secteur industriel, de clients, de concurrents, de lois, de règles économiques, de financement, d'actionnaires, de personnes, d'émotions, etc., etc. Donc vraiment tout un ensemble dans lequel existent et coexistent les entreprises. Tous ces éléments influencent plus ou moins une entreprise et donc son cours de bourse. Et d'ailleurs, quand tout va mal, rares sont les entreprises qui arrivent à sortir leur épingle du jeu. L'inverse, en revanche, est moins vrai. Si tout va bien, pas toutes les entreprises brillent nécessairement. Mais dans l'ensemble, quand même, la plupart des entreprises seront portées vers le haut avec le reste de la hausse. L'environnement qui est autour de l'entreprise joue donc un rôle important sur les cours à un moment ou à un autre. Ce moment est difficilement identifiable. Quand vous allez acheter une action, vous devez vous assurer que vous n'allez pas à contresens du mouvement général, car sinon vous risquez de vous faire retourner et vous risquez de vous faire balayer en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Les actions qui grimpent ou qui résistent quand les marchés s'effondrent, sont souvent les leaders de la reprise par la suite, donc sont souvent les actions les plus solides et les plus prometteuses quand les marchés repartent à la hausse et vont être les leaders qui vont tirer la tendance haussière. Le problème, c'est qu'il est difficile de savoir à quel point elles vont résister pendant la baisse ou pendant la chute des marchés, si même elles vont résister de toute façon. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un marché qui chute entraîne généralement tout sur son passage. C'est un petit peu l'apesanteur, c'est un petit peu la gravité ou l'apesanteur des marchés. Quand la machine s'emballe et que tout s'effondre, même les meilleures entreprises, même celles qui ont les cours qui montraient les meilleurs potentiels, les entreprises qui montaient les meilleurs potentiels, même ces entreprises-là ont du mal à résister et se font très généralement entraîner vers le bas par la baisse générale. Il est donc préférable de ne pas agir contre la tendance du marché, d'où l'importance pour vous de savoir comment déterminer la tendance des marchés qui vous concernent et comment déterminer la solidité de cette tendance. Je vous rappelle aussi au passage que les marchés ne sont pas isolés les uns des autres. Et ils sont au contraire en constante interaction les uns avec les autres. Ce phénomène d'ailleurs est principalement dû au fort phénomène de mondialisation qui se déroule ces dernières décennies, où les entreprises opèrent dans de nombreux pays au travers de nombreux continents. Elles vendent, elles exercent, elles ont des clients, elles opèrent dans de nombreux pays, de nombreux continents, et échangent donc sur des zones géographiques qui sont de plus en plus vastes. Les marchés ont donc tendance à évoluer de manière similaire et il est plutôt rare d'avoir un marché en particulier, par exemple, qui s'effondre sans que rien ne se passe sur les autres marchés. C'est encore plus vrai quand il s'agit d'un marché important comme le marché américain ou le marché européen. Si le marché américain enclenche une baisse ou le marché européen enclenche une baisse, il y a de très fortes chances pour que cette baisse se répercute sur les autres marchés. Donc ça ne veut pas dire que si un marché chute, tous les autres marchés vont obligatoirement chuter, ou quand un marché redécolle, tous les autres marchés vont obligatoirement redécoller. Mais plus le marché a de poids, plus il est influent, plus il va entraîner les autres et plus il va y avoir un mécanisme de masse qui fait que les marchés vont s'entraîner les uns les autres et partir dans une direction commune. Quand plusieurs marchés montent ou chutent, les autres marchés sont mécaniquement entraînés dans la même direction. Avant d'acheter une action sur un marché en particulier, donc, vous devez analyser la tendance de ce marché précis. Si vous avez acheté, par exemple, une action du Nasdaq, il va falloir analyser la tendance actuelle et passée du Nasdaq, sa tendance, la solidité de cette tendance. Si, dans un autre exemple, vous achetez une action française, alors il faudra analyser la tendance actuelle et passée sur le marché français ou sur les marchés européens, etc., etc. Vous avez compris le mécanisme. Vous pouvez être tenté de ne pas vous cantonner seulement et simplement au marché en question, mais aussi vous pouvez être tenté d'aller plus en profondeur et d'aller zoomer, d'aller plonger, vérifier ensuite le secteur industriel, par exemple, qui vous concerne, le secteur dont fait partie l'action qui vous intéresse, et pourquoi pas plonger encore plus en profondeur avec le groupe industriel, etc., etc. Donc le groupe industriel auquel fait partie l'action au sein de ce groupe industriel qui est lui-même au sein d'un secteur industriel qui est plus grand, plus vaste. Et donc vous pouvez être tenté et amené à plonger de plus en plus en profondeur pour avoir de plus en plus de détails. C'est d'ailleurs une approche qui est pratiquée par de nombreux intervenants en bourse, qui démarre donc d'un contexte macroéconomique, donc d'un contexte très large, en général une zone géographique, voire même le monde en entier, pour ensuite zoomer de plus en plus pour aller vers un contexte de plus en plus petit, de plus en plus précis, un contexte microéconomique. Ce genre d'approche est appelé une approche top to bottom dans les pays anglo-saxons, donc top pour le haut, bottom pour le bas, pour partir de tout en haut, une vue très globale, et aller tout en bas sur une vue beaucoup plus précise, voire même rentrer dans les détails microéconomiques de l'entreprise en question. Cette approche n'est pas fondamentalement mauvaise avec un tel travail de partir donc d'une approche microéconomique pour aller sur une approche microéconomique. Donc pas une approche mauvaise, si ce n'est les points suivants. Premièrement, où est-ce que vous vous arrêtez de creuser dans la partie microéconomique? Deuxièmement, un autre inconvénient, c'est que ce travail devient de plus en plus fastidieux et donc de plus en plus chronophage, demande de plus en plus de connaissances et les outils sont très peu automatisables. Troisième inconvénient d'une approche macro vers micro, c'est que les résultats sont incertains. C'est pas parce que vous avez acheté la meilleure entreprise du meilleur groupe industriel dans le meilleur secteur industriel sur le meilleur marché que vous aurez une performance nécessairement à la hauteur de vos attentes. Donc, personnellement, je tire la limite au marché concerné, ce qui me procure un excellent rapport entre le temps de travail et la fiabilité. Vous allez voir que le temps de travail nécessaire pour déterminer la tendance du marché et la solidité du marché que j'utilise est extrêmement rapide, avec un taux de fiabilité extrêmement élevé. Il existe une multitude d'indicateurs économiques, fondamentaux et techniques pour essayer de déterminer la tendance et la solidité d'un marché. C'est un petit peu la même manière qu'il en existe une multitude tout aussi variée pour analyser une entreprise et ses cours, grâce à l'analyse technique, l'analyse graphique et l'analyse fondamentale que vous connaissez. Une fois de plus, pour avoir un excellent rapport temps de travail par rapport à la fiabilité, je me cantonne au cours, au volume, avec l'utilisation aussi des moyennes mobiles. Du coup, cette méthode est rapide, visuelle, fiable et facilement accessible. Donc, du coup, que demander de plus? L'étude d'ailleurs peut être complétée avec les figures graphiques importantes, celles que vous connaissez déjà. Mais comme on ne recherche pas un breakout en particulier sur un marché, on cherche un breakout sur une action précise, mais on ne recherche pas un breakout à déterminer un breakout sur un marché. L'exercice du coup des figures graphiques est moins important, il est moins utile que pour une action en particulier avec la recherche d'un breakout en particulier sur des titres. Les figures graphiques permettent néanmoins de comprendre et d'anticiper les comportements, les intentions et par conséquent les mouvements de cours qui peuvent avoir lieu sur un marché en général, puisque de nouveau, on a les mêmes intervenants, les mêmes comportements qui interviennent sur les marchés dans leur globalité. Mais pour moi, du coup, les figures graphiques sont secondaires pour avoir une vision d'ensemble et un comportement d'ensemble sur un marché en particulier. Tout ça tombe plutôt bien, car vous avez déjà tous les outils pour faire cette étude qu'on va voir maintenant. Il ne reste plus qu'à voir ensemble comment les utiliser et comment interpréter tous ces outils. Alors, quelles sont les données à utiliser pour analyser la tendance d'un marché? Le mieux, car c'est le plus représentatif, c'est d'utiliser des indices de référence. Voici donc un tableau récapitulatif des principaux indices à suivre, que je couvre d'ailleurs chaque semaine dans le suivi hebdo pour les clients premium. Donc un indice, c'est ni plus ni moins qu'un regroupement d'actions. D'accord? Généralement, ce sont les actions les plus représentatives. Donc pour représenter par exemple le marché français, on va utiliser le CAC 40, qui tire son nom des 40 plus grosses capitalisations, donc les plus grosses entreprises sur le marché français. Donc un indice est le regroupement de plusieurs actions avec une moyenne qui est effectuée pour donner une idée donc de la tendance de ce marché au travers des entreprises les plus représentatives de ce marché. Donc voici un tableau récapitulatif des principaux indices. Alors sur les colonnes en rouge, on retrouve les marchés, l'indice, le nom de l'indice, le code que vous pouvez retrouver dans Pro Real Time et des commentaires que j'ai rajoutés. Donc les marchés sont triés par zone géographique et par marché financier. Donc on a tout d'abord pour les marchés américains, on a le Nasdaq. D'accord? Donc le Nasdaq, l'indice, c'est le Nasdaq Composite Index. Le code, c'est COMP que vous retrouvez dans Pro Real Time. Et donc le Nasdaq regroupe les actions qui sont technologiques sur le marché américain. Les actions technologiques ont souvent tendance à être précurseurs des nouvelles tendances. Quand le Nasdaq chute, on a souvent les autres marchés qui suivent. Et quand le Nasdaq remonte, on a souvent les autres marchés qui remontent par la suite. Donc le Nasdaq est véritablement un précurseur des tendances sur les autres marchés. Ensuite, on a toujours sur les marchés américains, on a deux autres indices, donc ça fait trois indices en tout et pour tout pour les marchés américains. Sur les marchés américains, donc sur le marché financier qui est le NYSE, donc le New York Stock Exchange, donc les quatre lettres New York Stock Exchange, on a deux indices. Le premier, c'est le DJ30, donc en anglais qui se dit DJ30, Industrial Average Index. Donc pour le Dow Jones, le code c'est DJI. Et le code, l'indice du Dow Jones inclut uniquement des actions américaines du NYSE, surtout, et quelques actions du Nasdaq. Donc ce n'est pas à 100% du NYSE. Il y a quelques actions du Nasdaq qui font partie de l'indice Dow Jones, mais ce sont uniquement des actions américaines. D'accord? Ce qui n'est pas le cas du NYSE. Le NYSE, il n'y a pas uniquement des actions américaines au sein du NYSE. Donc l'indice du Dow Jones des 30 plus grosses capitalisations inclut donc quelques actions du Nasdaq. Le troisième indice, c'est le S&P 500, donc S&P 500 en français. Donc index en anglais, c'est vraiment pour dire un indice. Donc en français, vous verrez le terme indice dans les pays anglo-saxons, ils utilisent le terme index. Le code, c'est SP500. Et donc le SP500 regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines, mais pas seulement, il y a donc d'autres entreprises, pas seulement des entreprises américaines. Et au sein du S&P 500, il y a aussi quelques actions du Nasdaq sur cet indice, mais c'est quand même principalement des actions du NYSE. Ensuite, le quatrième marché ou quatrième indice, c'est le FTSE 100. Donc ça, c'est le nom que les Anglais ont donné à leur indice, qui se prononce plus facilement FTSE plutôt que FTSE à chaque fois. Donc ça s'appelle le FTSE 100, qui est donc sur le marché du Royaume-Uni, et la bourse c'est le LSE en anglais, donc LSE en français pour le London Stock Exchange. Voilà, le code c'est UKX et il couvre donc les 100 plus grosses capitalisations au Royaume-Uni. Deuxième indice sur les marchés européens après le FTSE, c'est pour l'Allemagne cette fois-ci avec l'indice, pardon, le DAX 30, d'accord? Donc le DAX, c'est le nom du marché financier principal en Allemagne. Le DAX 30 couvre donc les 30 plus grosses entreprises du marché allemand. Et l'indice s'appelle donc le DAX 30 Perf Index. Le code, c'est DAX. Et cet indice exclut toutes les actions technologiques. Il existe aussi d'autres indices sur le marché allemand, comme c'est le cas aussi pour le Royaume-Uni ou pour les marchés américains. Sur l'Allemagne, il y a d'autres indices qui sont assez connus aussi, c'est le MDAX, donc M pour dire moyenne, taille moyenne. Donc ce sont toutes les entreprises qui sont de taille moyenne et qui sont après les 30 plus grosses entreprises allemandes. Ensuite, vous avez aussi le SDAX. Le S, c'est pour small en anglais, donc pour les petites entreprises, qui sont donc les entreprises de taille inférieure aux moyennes et qui sont donc la suite logique des autres entreprises. Vous avez aussi sur le marché allemand un autre indice qui s'appelle le Tech DAX pour toutes les actions technologiques que je n'ai pas mis ici dans la liste et que je ne vous conseille pas nécessairement de suivre de toute façon de manière régulière. Donc je ne l'ai pas mis ici et je ne l'ai pas mis dans la liste sur Pro Real Time qu'on va voir dans un instant. Enfin, le dernier marché avec le dernier indice, c'est le marché français pour la place européenne Euronext. D'accord? Donc Euronext ne couvre pas que la France. Vous avez Euronext France, vous avez Euronext Portugal, vous avez donc Euronext Pays-Bas. Donc différents pays avec différents marchés. Sachez néanmoins que le CAC 40 est représentatif des marchés d'Euronext et donc des marchés européens. Sinon, vous pouvez plutôt utiliser un autre indice que le CAC 40 avec le code PXI, c'est l'indice Euronext 100 avec le code N100, d'accord, qui regroupe les 100 plus grosses capitalisations européennes. Mais sachez néanmoins que le CAC 40 constitue plus de 60% plus de 60% des entreprises qui sont dans l'indice Euronext 100 sont des entreprises françaises. D'accord? Donc véritablement l'indice CAC 40 est très représentatif de la tendance des marchés européens. Voilà, donc 6 indices, 3 pour les marchés américains, 3 pour les marchés européens. Et pour les marchés européens, un pour le Royaume-Uni, un pour l'Allemagne et un pour la France qui représente de manière importante le reste des autres pays d'Europe. J'attire votre attention maintenant sur un point important. Les volumes sur les indices ne sont pas aussi fiables que sur les actions. Les volumes et les indices sont donc agrégés sur plusieurs dizaines, voire centaines d'actions, comme on vient de le voir avec les différents indices. Et donc ces indices connaissent parfois quelques coquilles, notamment sur le dernier chandelier dans Pro Real Time, donc le dernier chandelier en hebdomadaire ou le dernier chandelier en journalier, connaissent souvent quelques aléas au niveau des volumes. Donc vous allez être obligé d'accorder moins d'importance au volume des indices que les volumes des actions en direct. Voilà maintenant les règles simples mais efficaces que vous devez respecter pour pouvoir déterminer la tendance et la solidité d'une tendance grâce aux indices, grâce aux cours, au volume et aux moyennes mobiles. Alors, pour ça, j'ai fait un tableau récapitulatif visuel avec des jolies couleurs. Je vais donc vous expliquer maintenant comment il fonctionne. Donc, vous avez deux grands cas de figure qui durent normalement plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire même plusieurs années. Le premier cas de figure, c'est vous avez la moyenne mobile à 50 unités de temps qui est supérieure, donc au-dessus de la moyenne mobile à 200 unités de temps. Donc c'est la partie gauche du tableau. La partie droite du tableau, c'est l'inverse. Cette fois-ci, c'est la moyenne mobile à 50 unités de temps qui est inférieure à la moyenne mobile à 200 unités de temps. Ce tableau, cette méthode, fonctionne aussi bien en hebdomadaire qu'en mensuel ou même qu'en journalier. Donc, vous pourrez travailler sur 50 unités, 50 jours et 200 jours pour les moyennes mobiles ou 50 semaines ou 200 semaines pour les moyennes mobiles toujours. Donc on va regarder maintenant la partie gauche du tableau. Donc on est dans le scénario où la moyenne mobile à 50 unités de temps est supérieure à la moyenne mobile à 200 unités de temps. Dans ce cas de figure, on a trois autres scénarios possibles, plus petits, qui vont décomposer la situation. Le premier cas de figure, c'est que les cours sont au-dessus de la moyenne mobile à 50 unités de temps. Donc au final, on a les cours qui sont au-dessus de la moyenne de la MM50, qui sont eux-mêmes, qui est elle-même au-dessus de la MM200. Dans ce cas de figure, tout est OK, c'est le scénario idéal. On est sur des marchés clairement haussiers et donc j'ai marqué achat OK. Vous pouvez acheter des titres en suivant la méthode gagner en bourse simplement, en respectant les règles et les éléments essentiels qu'on voit au fur et à mesure du module 3. D'accord? Vous êtes confiant, les marchés sont solides, vous n'êtes pas à contre-tendance, vous êtes avec la tendance du marché. Donc, pas de souci à avoir, vous pouvez acheter confortablement. Deuxième cas de figure qui est un petit peu moins rose, c'est que les cours viennent de passer en dessous de la moyenne mobile à 50 unités de temps. Donc ils étaient au-dessus, ils viennent de franchir par le haut et de franchir maintenant, ils sont maintenant en dessous de la moyenne mobile à 50 unités de temps. Dans ce cas-là, on commence à traverser des turbulences, le marché bascule sans tendance, on n'est ni clairement haussier ni clairement baissier, d'accord? La méthode fonctionne toujours. Vous allez pouvoir continuer à acheter des titres qui sont retournés par le screener en respectant les règles qu'on va voir, mais il va falloir être d'autant plus vigilant et si vous êtes dans le doute, il va falloir vous abstenir. Dans la zone orange, il faut être ultra sélectif pour prendre le moins de risques possible. Troisième cas de figure, vous en doutez, la situation se détériore encore plus et cette fois-ci, on a les cours qui pénètrent aussi la moyenne mobile à 200 unités de temps et se retrouvent en dessous de cette moyenne mobile. Donc cette fois-ci, on est dans un marché rouge, le marché est clairement baissier maintenant et il est trop tard pour acheter des actions, vous êtes à contre-tendance, donc les achats sont interdits dans un tel cas de figure. Même si le screener vous retourne des signaux d'achat, il est fortement interdit d'acheter à ce moment-là. Vous allez vous faire entraîner par la baisse. Donc le screener ne vous retournera normalement très peu de titres dans cette phase-là. Vous en retournera quand même plusieurs dans la phase orange. Vous en retournera beaucoup dans la phase verte. Mais les quelques titres qui sont retournés dans la phase rouge, je vous interdis de les acheter. Donc on est dans un marché baissier. La suite logique maintenant, ça va être de repartir à la hausse. L'autre cas de figure, c'est que on a la partie droite du tableau, donc on a la moyenne mobile 50 qui est inférieure à la moyenne mobile à 200 jours. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, dans cette période baissière, la moyenne mobile à 50 unités de temps a fini par passer aussi, elle, en dessous de la moyenne mobile à 200. Donc on a les cours qui sont en bas, ensuite on a la moyenne mobile à 50 unités de temps, et ensuite on a la moyenne mobile à 200 unités de temps qui est au-dessus. marché baissier, achat interdit, exactement le même cas de figure que le précédent ici. Maintenant, on a les marchés qui commencent à se redresser, on a les cours qui franchissent à la hausse la moyenne mobile à 50 unités de temps, on bascule dans un marché sans véritable tendance, la forte baisse est terminée, vous pouvez de nouveau acheter des actions qui sont retournées par le screener en respectant les critères et les autres éléments essentiels, mais on est quand même dans une période d'incertitude. Il faut donc rester extrêmement vigilant. Les achats sont possibles, mais soyez très sélectifs. La hausse continue et cette fois-ci, on a les cours qui passent au-dessus de la moyenne mobile à 200 unités de temps. Les marchés maintenant sont clairement haussiers. Vous pouvez acheter en toute confiance en continuant à respecter les autres critères et éléments essentiels. Voilà, donc achat OK dans la zone verte, achat possible mais vigilant et très sélectif dans la zone orange, achat interdit dans les zones rouges. En suivant ces règles faciles à la lettre, ça va vous prendre en fait très très peu de temps à faire ce suivi. Vous diminuez sérieusement vos chances d'opérer contre la tendance générale du marché, vous réduisez donc vos risques d'acheter au milieu d'une baisse des marchés et vous augmentez ainsi votre performance en achetant uniquement quand les marchés sont les plus solides et clairement en phase haussière ou en phase sans tendance en étant très sélectif. Le plus délicat, vous vous en doutez certainement, c'est dans les moments de grande incertitude où les intervenants ne savent plus où donner de la tête et ces phénomènes-là se matérialisent par les cours et les moyennes mobiles, tout se croise plus ou moins en même temps. Donc les cours, la MM 50 et la MM 200 qui se croisent et se resserrent. Heureusement, ces périodes d'incertitude, de grosse incertitude, où tout se resserre et tout se croise à des points critiques, sont rares. Les autres zones délicates, c'est quand on oscille entre une période verte et orange, ou orange et rouge, c'est-à-dire quand les cours croisent la moyenne mobile à 50 ou la moyenne mobile à 200, que ce soit à la hausse ou à la baisse d'ailleurs. Dans ces cas-là, on est dans un moment qui est tangent et indécis, avec une grosse incertitude. Dans ces scénarios-là, la force du mouvement est importante, donc la force des cours et des volumes vont être représentatifs. Si les cours oscillent autour de la moyenne mobile, vous êtes entre deux zones, entre la verte et la orange, ou entre la orange et la rouge. C'est pas bien grave, c'est à vous d'utiliser votre capacité de jugement. D'accord? Et ça ne va pas être clairement orange, clairement rouge. Il ne faut pas être aussi manichéen et aussi noir et blanc. D'accord? Les cours risquent d'osciller pendant un petit moment entre les deux zones. À vous de voir si vous préférez être plus restrictif ou si vous préférez prendre un peu plus de risques. En revanche, quand le croisement se fait avec une forte variation de cours, donc de l'indice, et une forte variation des volumes, il n'y a pas de doute, la situation vient donc de clairement changer et fortement changer. D'accord? Regardons donc ensemble maintenant des exemples concrets dans ProRealTime. Je suis maintenant dans l'interface graphique ProRealTime. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder différents exemples. Alors, tout d'abord, la liste des marchés que je viens de faire apparaître ici. Donc j'ai créé une liste ici avec les six indices dont je viens de parler. Donc trois indices pour les marchés américains avec le Nasdaq Composite, le Dow Jones et le S&P 500 et trois autres indicateurs pour les marchés européens avec le DAX, le CAC 40 et le FTSE 100, donc le FTSE 100 qui regroupe les 100 plus grosses capitalisations sur le LSE, donc le London Stock Exchange. Voilà, donc on va prendre donc un indice au hasard. On va aller sur le CAC 40. Voilà, donc le CAC 40 qui vient de s'afficher sous nos yeux. Alors on va prendre une échelle de temps. Voilà. Voilà, donc on a le CAC 40 qui vient de s'afficher sur 10 000 unités de temps. Je suis en journalier. D'accord? On va prendre une période de temps au hasard en démarrant, si possible, sur un plus haut. Allez, on va démarrer ici. Voilà. Je vais rezoomer un peu plus pour qu'on y voit un petit peu mieux. Voilà, on va démarrer par ici. Donc, on va démarrer sur un sommet ici. Donc, on a les cours. Oups. Voilà. Donc, on a les cours ici qui sont situés au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, représentée en rouge, et la moyenne mobile à 200 unités, donc 200 jours en bleu. Donc les cours ici actuellement aux alentours de début juin 2007, les cours sont donc clairement au-dessus de la moyenne mobile 50 et au-dessus de la MM200. Donc on est dans un état vert, les marchés sont haussiers, on est confiant, les achats sont possibles sur le CAC 40 pendant à cette période-là. Qu'est-ce qui se passe par la suite? On voit que quelques séances plus tard, on a les cours ici le 7 juin 2007 qui franchissent à la baisse la MM50. D'accord? On a d'ailleurs même une augmentation des volumes. Donc ici, clairement, on passe dans un état orange, un état où il faut être prudent. Vous pouvez continuer à acheter des actions qui sont retournées par le screener en respectant les autres éléments essentiels qu'on va voir par la suite avec les autres vidéos. Mais il va falloir être d'autant plus vigilant et restrictif sur vos choix puisqu'on rentre dans une zone de turbulence. Cette zone de turbulence finalement ne dure que 4 séances et on a les cours qui repassent, l'indice CAC 40 qui repasse fortement à la hausse au-dessus de la moyenne mobile 50, avec une hausse importante comparée aux autres bâtons que vous pouvez voir, les autres chandeliers que vous pouvez voir précédemment, et de nouveau une forte hausse des volumes qui est bien au-dessus de la moyenne mobile des volumes. Donc on repasse ici dans une zone verte où vous pouvez acheter de manière beaucoup plus confiante. Les achats des titres sur le CAC 40 seront et sur les marchés français et européens même dans l'ensemble, seront beaucoup plus fiables. Quelques séances plus tard, on oscille de nouveau sous la moyenne mobile à 50 jours. Donc de nouveau, on rebascule dans une zone orange où il faut être vigilant. On voit malheureusement que pendant ces quelques mois ici, on a entre juin et juillet, les cours, l'indice oscille au-dessus, au-dessous de la moyenne mobile 50. Donc, on change d'état entre l'état vert où vous pouvez acheter et l'état orange où il faut être plus vigilant. Vous pouvez quand même acheter, mais il faut être plus vigilant. Donc, c'est les zones qui sont un petit peu délicates. D'accord? Par contre, on voit ici un franchissement important le 20 juillet. D'accord? Un gros franchissement à la baisse, des volumes qui sont légèrement au-dessus de la moyenne, donc on rentre clairement de nouveau dans une zone orange où il faut être vigilant. Et on voit que les cours continuent à chuter, 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 chuter. Ici, le 26 juillet, ils franchissent fortement à la baisse la moyenne mobile à 200 unités de temps, avec une forte augmentation des volumes. Sans hésitation, on vient de basculer dans une zone rouge où je vous interdis d'acheter des actions sur les marchés européens, particulièrement sur le marché français, à ce moment-là, à partir de là donc, puisque vous allez être fortement à contre-tendance des marchés français et marchés européens, et que même si le screener retourne quelques signaux positifs pendant cette période-là, vous allez agir contre la tendance générale. Et le CAC 40 et les autres entreprises et les marchés sont en train de se retourner et de partir fortement à la baisse. Votre titre, même s'il est retourné par le screener et vous avez l'impression que tout est OK, il a de très fortes chances de quand même chuter avec l'apesanteur générale du reste des marchés. De toute façon, je vais être franc avec vous, le screener, dans une période orange, va vous retourner beaucoup moins d'opportunités. Dans une période rouge, il ne va vous en retourner quasiment aucune. D'accord? Tous les marchés sont en train de s'effondrer. Il y a très peu de titres qui sortent leur épingle du jeu. Donc ici, à la clôture au 26 juillet, on est donc dans une zone rouge où il ne faudra plus acheter de titres. On voit on repasse dans une zone orange le 31 juillet. D'accord? Donc on est dans une zone un peu d'incertitude là pendant ces quelques bougies. Et puis de nouveau, la baisse continue. D'accord? On a les cours ici qui sont en dessous de la moyenne mobile à 200 jours et en dessous de la moyenne mobile à 50 jours. Donc on est toujours dans une zone rouge où il ne faut pas acheter. Quand est-ce qu'on a le prochain croisement? C'est ici. Donc ici déjà, vous voyez que la moyenne mobile à 50 jours vient croiser la moyenne mobile à 200 jours. On est maintenant dans le scénario inverse. Donc la moyenne mobile 50 jours est inférieure à la moyenne mobile 200 jours. On a un franchissement ici des cours qui viennent refranchir au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Donc on rebascule dans une zone orange. On a potentiellement de nouveau un départ, un retournement à la hausse du CAC 40. Donc à partir de cette zone-là, vous pouvez de nouveau acheter en étant vigilant et très sélectif. On voit de nouveau les cours ici qui passent au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Donc ici, on rebascule dans une période verte où vous pouvez acheter avec confiance. Malheureusement, ça va être d'assez faible durée puisque les cours vont refranchir et osciller ici. Donc on est dans une zone étroite ici aux alentours d'octobre 2007 où on a les cours, la moyenne mobile à 200 jours et la moyenne mobile à 50 jours qui sont quasiment tous au même niveau. Donc une grande zone d'incertitude. On ne sait pas si on est vraiment en train de redécoller et repartir fort à la hausse ou si on va repartir fort à la baisse, puisqu'on est aussi proche d'un scénario que de l'autre. On continue à avancer dans le temps. Voilà, donc ici, vous voyez, quand on refranchit la moyenne mobile à 50 jours, on est clairement dans une zone rouge ici où il faut vous abstenir. On a de nouveau une zone, forte zone d'incertitude ici où tout s'est resserré, d'accord, qui ne va pas durer longtemps puisque on réenchaîne fortement sur la baisse. Donc toute cette partie-là, on est clairement dans une zone rouge puisqu'on a les cours qui sont en dessous de la moyenne mobile à 50 jours qui est elle-même en dessous de la moyenne mobile à 200 jours. Donc toute cette phase-là, on est dans une période rouge. Période rouge, période rouge, période rouge où il faut éviter d'acheter des actions. Quelles sont vos opportunités à ce moment-là? Vous devez surveiller les titres que vous avez encore en portefeuille pendant cette zone rouge. Et vous devez vous abstenir d'acheter de nouveaux titres. On verra les règles qu'il faut suivre pour savoir quand vendre les titres que vous avez en portefeuille. Mais dans la zone rouge, vous ne devez pas acheter de nouveaux titres. Il y a d'autres stratégies qui sont possibles dans une zone rouge. Vous vous en doutez, c'est de faire de la vente à découvert qu'on ne voit pas dans la formation. D'accord? Dans la formation, on voit seulement comment acheter et opérer sur des environnements qui sont en tendance haussière, donc verte, ou sans tendance réelle en orange, mais pas sur de la tendance rouge où les marchés sont baissiers. Donc on continue, on est en zone rouge ici. Le 1er avril 2008, vous voyez donc une forte hausse de l'indice CAC 40 qui vient franchir à la hausse la moyenne mobile 50 à 50 unités de temps. Donc on rebascule dans une zone orange où il est possible de nouveau d'acheter en étant très vigilant. Orange, 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 orange. Je vais résumer un petit peu. Voilà, jusqu'à la période ici où on arrive au 4 juin 2008, on commence à frôler la moyenne mobile, on voit qu'on la pénètre fortement à la baisse le 6 juin 2008 avec des volumes qui sont au-dessus de la moyenne, donc on rebascule de nouveau dans une période baissière, dans une zone rouge où il faut absolument éviter d'acheter des titres. Vous voyez juste d'ailleurs que cette période rouge se propage donc du 6 juin jusqu'aux alentours du 7 août 2008, où de nouveau l'indice CAC 40 vient jouer et osciller autour de la MM50. Donc on est toujours dans une période rouge, limite orange à ce moment-là. Il est toujours conseillé d'être ultra vigilant. voire de s'abstenir totalement. On rebascule de nouveau dans la zone rouge ici qui va durer encore pendant plusieurs semaines. Donc je vais essayer d'avancer un peu et de voir de nouveau la reprise de la hausse. Voilà, donc arrivé aux alentours de mars 2009, on est de nouveau proche de la moyenne mobile 50 qui est franchie légèrement ici mais qui rechute 3 séances plus tard. Et enfin, un franchissement à la hausse sans équivoque le 2 avril 2009 avec une forte hausse, un gap haussier, des forts volumes. Donc on rebascule en zone orange. Et cette zone orange va même basculer ici en zone verte le 1er juin 2009 quand on refranchit la moyenne mobile à 200 unités de temps à la hausse. Donc pendant toute cette période-là, vous pouvez acheter en étant vigilant. Ici, normalement, tous les signaux sont verts. Malheureusement, on va rebasculer dans une période d'indécision ici pendant à peu près 15 jours, 3 semaines, où de nouveau on a les moyennes mobiles qui se croisent, les cours qui sont au même niveau ici. Donc une grande période d'incertitude ici aux alentours de fin juin, début juillet, où on ne sait pas si on va repartir à la baisse ou repartir à la hausse. Le mouvement, la tendance sur les 6 ou 7 jours qui suivent repartent clairement à la baisse. On est dans une zone rouge de nouveau avec des cours en dessous des deux moyennes mobiles qui va durer donc 6 ou 7 séances et ensuite on repart enfin fortement à la hausse. Et donc les cours passent au-dessus de la moyenne mobile à 200, on passe en zone orange. 2 unités de temps plus tard, elles franchissent à la hausse la moyenne mobile 50 jours. On bascule enfin dans une zone verte sérieuse qui va durer, comme vous pouvez le constater, plusieurs mois. Voilà, de temps en temps, on rebascule dans une zone orange où il faut être vigilant, mais vous voyez qu'avec cette méthode-là simple et rapide des moyennes mobiles, vous pouvez aller profiter de la hausse pendant encore de nombreux mois. On rebascule ici dans une zone orange où il faut être vigilant, mais on n'est pas catastrophique. D'ailleurs, on frôle la catastrophe ici le 5 février où on pénètre fortement la moyenne mobile à 200 unités de temps avec de forts volumes. Donc, on bascule ici en zone rouge pendant simplement en fait une ou deux séances pour après repartir. Voilà, donc je pense que vous avez compris le mécanisme pour les tendances. Alors là, je viens de vous montrer sur le CAC 40. On pourrait très bien faire l'exercice, je vais essayer de faire le même exercice de manière un peu plus rapide cette fois, par exemple sur le FTSE. Voilà, on va dézoomer, on va prendre une période ici, où on est à la fin de la tendance baissière pour aller sur la tendance haussière. Voilà, je vais zoomer un peu plus. Voilà. Donc, vous voyez ici, on est sur une zone rouge. On a les cours en dessous de la moyenne 50 et la moyenne 200. Zone rouge, zone rouge. On rebascule ici en zone orange pendant toute cette période-là. Ici, on oscille entre la période orange et la période verte. Et ensuite, on finit par franchir clairement la période verte. On est sur une période verte pendant de nombreux mois. De temps en temps, on frôle la zone orange, mais pendant toute cette période-là, vous êtes serein, vous pouvez acheter des actions sur le marché britannique avec un grand facteur de confiance. Voilà, on touche ici une zone rouge de manière assez temporaire pour ensuite rattaquer une zone orange ici sur 2-3 séances et de nouveau une zone verte qui va durer pendant encore de nombreux mois. Maintenant, quelles sont les actions à effectuer dans ce cours? D'abord, vous devez vous créer une liste marché, par exemple, dans ProRealTime, avec les principaux indices qu'on vient de voir, pour que vous puissiez suivre régulièrement et pouvoir y jeter un coup d'œil rapidement, donc rapidement aux différents indices. Ensuite, entraînez-vous à vérifier les états vert, donc achat OK, les états orange, achat possible, et les achats rouges, achat interdit, sur les indices en démarrant plusieurs mois ou années en arrière. Et ensuite, vous avancez petit à petit dans le temps, comme je viens de le faire, pour reconnaître les changements d'état quand les courts et les moyennes mobiles se croisent à la hausse ou à la baisse. Faites l'exercice sur des indices différents et sur des échelles de temps différentes, que ce soit journalière ou hebdomadaire, et travaillez sur des marchés américains ou marchés européens ou d'autres indices aussi, si ça vous chante. Voilà. Pour conclure, dans cette vidéo, on vient de voir le premier élément essentiel à vérifier avant d'acheter une action. Donc, comment détecter la tendance et la solidité des marchés qui vous intéressent et qui vous concernent. C'est-à-dire savoir déterminer quand les marchés sont haussiers, quand est-ce qu'ils sont sans tendance et quand est-ce qu'ils sont baissiers. Et dans la prochaine vidéo, on verra ensemble le deuxième élément essentiel que vous devez vérifier avant d'acheter une action. C'est en identifiant un vrai calme plat qui se produit avant la tempête. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo.